Bonjour, vous êtes sur Radio 94.5 FM et vous êtes en compagnie de... Et moi, et bien sûr notre invité, le grand, et le seul et l'unique,
monsieur... Arthur Ténor.
Donc voilà, donc c'est un écrivain qui écrit beaucoup de livres pour enfants.
Et adolescents.
Donc maintenant, nous souhaitons adresser toutes nos condoléances aux nombreuses victimes du Bataclan et nous souhaitons faire une minute de silence, même si nous l'avons déjà fait. Maintenant, la vie doit continuer. C'est pour ça que nous allons laisser la parole à El Fayel.
Donc voilà, on va commencer par le commencement. Monsieur Arthur Ténor, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur vous, pour vous connaître un peu plus?
D'accord. Arthur Ténor. Alors, on dit écrivain pour la jeunesse. Alors, ça permet de distinguer par rapport à d'autres écrivains. Donc, bien que je puisse écrire des choses qui peuvent être lues par même par des grands-pères ou des grands-mères de 75 ans, hein, j'imagine, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on est auteur pour la jeunesse, ça veut dire qu'on écrit des romans. Enfin, moi, en tout cas, j'écris des romans, ça commence autour de 7 ans. Et puis, comme il faut bien donner des indications, ça va jusqu'à 17 ans. Alors, évidemment, on n'écrit pas de la même manière pour un enfant de 7 ans que pour un adolescent de 17 ans, même un jeune homme, un adolescent, parfois on dit. Et donc, j'écris... Alors, c'est dur de dire comment me présenter, parce que j'ai une caractéristique en tant qu'auteur, c'est de n'avoir aucune caractéristique. Donc, j'ai écrit dans tous les genres possibles, science-fiction, histoire, horreur, amour, tout ce que vous voulez, pour les grands, les petits, les moyens... des gros, des petits, moyens livres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un écrivain pour la jeunesse. Je crois que c'est ça.
D'accord, merci pour cette réponse.
Alors, monsieur Ténor, quand êtes-vous devenu écrivain?
Ah, alors, c'est une question... En fait, normalement, on devrait penser qu'on devient écrivain du jour où on commence à écrire. Vous écrivez une histoire, vous êtes content de vous, êtes-vous écrivain? Bon. Alors là aussi, pour avoir les idées claires, on dira, c'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça, qu'un écrivain est un écrivain, parce que pour la première fois, dès lors plutôt, où il a publié pour la première fois un roman, un livre, un compte d'éditeur. Compte d'éditeur, ça veut dire que c'est pas lui qui a payé pour fabriquer les livres, c'est l'éditeur. Et on est, voilà, à ce moment-là, on peut adhérer à la Maison des Écrivains, donc à Paris. On peut devenir membre de la Maison des Écrivains à partir du moment où c'est pas nous qui avons payé pour fabriquer le livre. Quelqu'un qui s'auto-édite, qui est auto-édité, donc qui paye lui-même à compte d'auteur, n'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, j'ai pas d'opinion là-dessus, est considéré comme, n'est pas considéré comme un écrivain à part entière. Et donc voilà, donc j'ai la chance d'être un écrivain, un vrai de vrai, mais bon, je suis sûr qu'il y a des écrivains qui n'ont jamais été publiés, qui sont tout à fait talentueux, c'est sûr.
Donc, une petite question, que lisiez-vous petit? Et surtout, ouais. Quelle qualité pour surtout être écrivain?
Alors, attends, là c'est deux questions, effectivement. Alors, qu'est-ce que je lisais? Alors, je suis d'une génération, les jeunes, vous ne connaissez pas votre bonheur, vous avez des bibliothèques qui sont remplies de livres de toutes sortes, des CDI où il y a toutes sortes de... Franchement, il y en a pour tous les goûts. Hein. Faudrait être difficile pour ne pas trouver à son goût. Hein. Non, moi, je suis d'une génération où on n'avait pas le choix. Hein. Tous les enfants de France lisaient quasiment tous la même chose. Alors, moi, j'ai un souvenir très précis de mon premier livre. C'est mon papa qui, un jour, est arrivé à la maison avec « Oui, oui, la voiture jaune ». Ben oui, 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 la voiture jaune. Mais vous imaginez pas le bonheur que c'était pour moi. C'était la première fois de ma vie. C'est comme si je devenais grand. Quand on commence à lire tout seul, on devient un grand, alors pas un, alors moi j'ai jamais été un grand lecteur, mais un vrai lecteur. Donc j'ai commencé avec Oui Oui. Et puis après Oui Oui, je suis passé, alors on avait les bibliothèques roses, le Club des Cinq, et puis les bibliothèques vertes, les Clans des Sept, Alice, voilà, c'est, et on lisait tous la même chose, puisqu'il y avait que ça à se mettre sous la dent. Et puis très rapidement, après, on passait à la littérature quasiment pour adultes. Donc voilà, alors ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens de ceux qui nous écoutent, ce que je viens de dire.
Et parlant de ça, qu'est-ce qui vous a donné envie d'à votre tour, d'écrire des livres?
Alors c'est vrai que c'est... Bon, vous savez que si on parle d'une vocation, il y a plusieurs façons d'avoir une vocation. On naît avec... Je sais pas, on n'arrive même plus à situer parce que on a l'impression que, je sais pas, j'ai un ami qui est peintre, je le connais depuis la maternelle et depuis la maternelle il a envie de devenir peintre. C'est bizarre, hein. Il a toujours dessiné, c'était presque son obsession d'enfant, il est devenu peintre et il est peintre aujourd'hui, là, voilà, il a bien dépassé la cinquantaine. Alors moi, c'est pas du tout ça, c'était beaucoup plus brutal. Je pensais absolument pas à écrire des livres ni quoi que ce soit. Je m'en sentais absolument pas capable. J'avais pas du tout le niveau. Et puis voilà, un matin de février, j'avais 18 ans. Alors ça tombait bien parce que c'était juste avant les vacances de février. J'ai eu une idée. Comme ça me tombe dessus. Une idée d'histoire, un peu futuriste, même carrément futuriste, un peu de science-fiction. Et puis bon, bah, comme j'avais du temps, alors au lieu d'aller voir les copains, je reste à la maison et je me mets à écrire non-stop pendant toute cette période de vacances. Et quand je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est incroyable. En rassemblant toutes les feuilles devant moi, j'avais 50 pages. Je venais d'écrire un roman pour la première fois de ma vie, un vrai, avec un début, un milieu, une fin, mon premier roman. Et ça, c'était une sacrée découverte. C'était une découverte, seulement le problème, c'est que derrière, quand on se dit, tiens, je viens de vivre une expérience extraordinaire, j'aimerais bien recommencer. Ouais, mais bon, si on écrit que pour soi-même, ça va. Si on se commence à penser aux autres, à dire, je voudrais bien faire lire, mince, il va falloir que je m'achète un dictionnaire, là. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que quand on veut devenir écrivain, être digne d'être lu par les autres, il faut quand même avoir une certaine, comment je dirais, des qualités, notamment en français. Et ben je me suis mis au boulot. Et donc, j'ai publié mon premier roman. Là, j'ai 38 ans, sachant que j'ai eu donc 20 ans hein, d'apprenti ouais. Écrivain. Voilà.
Quand même, oui.
Ça fait pas du jour au lendemain, quoi.
Absolument pas. Et je crois que même les génies s'embouillir, là, vous savez, ceux qui, je sais pas moi, qui ont ça à la naissance. Moi, mon copain un peintre, je peux vous dire qu'il a travaillé comme vous pouvez pas imaginer. Seulement lui, il a commencé à la maternelle à apprendre à dessiner. Alors évidemment, quand il est arrivé à 20 ans, il savait dessiner. Moi, j'ai commencé à écrire à 18 ans. Bon, voilà, mais ça c'est mais du travail, vous pouvez pas imaginer le travail. Ce que ça représente, bah, c'est comme toute chose. Si on veut arriver au top, au niveau...
Il faut le faire.
Il faut le faire, et donc il faut apprendre. Hein. Rien ne nous est donné comme ça, facile, du premier coup.
Revenons sur la question de la vie. Cela a été un peu dur pour vous, 20 ans d'apprentissage?
Je vous laisse imaginer. Parce que quand vous avez un rêve... Vous vous dites, est-ce qu'il va se réaliser un jour? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite ou est-ce que je ne le mérite pas? Et est-ce que je perds mon temps à poursuivre cette chimère, ce rêve impossible ou pas? Et alors, il y a des moments de grand doute. Moi, j'ai certainement eu des moments où je me disais, arrête, parce que de toute façon, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Mais c'est curieux parce que, curieusement, j'avais ça en moi et je ne me disais même pas, je vais y arriver ou pas. Je me disais plutôt, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. Et si ça doit se faire, ça se fera. voyez ce que je veux dire? La nuance est différente. J'avais pas la prétention de dire, vous savez, cette prétentieux, comme des gens prétentieux qui disent, ouais, bon, moi je suis écrivain, là, machin. Non, moi j'avais aucune prétention, juste l'ambition, l'envie. Je me disais, ah, j'aimerais tant le devenir. Ben, je vais essayer. Et puis je ferai ce que je pourrai. Peut-être que, voilà, un jour ça marchera. C'était alors ça.
C'était donc une enquête où vous ne savez pas où est-ce que ça allait aboutir, en fait.
Une quête. Alors là, tu as prononcé le mot tout à fait, une quête. C'est une vraie quête, c'est la quête du Graal. Le Graal, c'est son trésor intérieur, c'est sa vérité. J'ai été en quête de mon trésor intérieur. Ouf, je l'ai trouvé. Alors, il était profond, je peux vous dire, dans la pyramide. Hein. Il a fallu aller le chercher très, très profondément dans les souterrains, hein, parce que j'ai passé des moments où j'étais perdu dans les labyrinthes. Mais ça fait rien. On est explorateur, on explore, on cherche. Et un jour, son Graal, on le trouve.
Donc, ça a été difficile pour vous de trouver une maison d'édition ?
Eh bien oui, parce que, bon, alors, déjà, tu trouves ton Graal. Tu te dis, oui, je suis fait pour ça, j'ai des bonnes idées. Maintenant, il faut être un vrai professionnel. Alors, un professionnel, c'est celui qui a 20 sur 20 à chacune de ses dictées. Et moi, je fais des dictées de 400 pages. Vous voyez un peu la difficulté. Et alors, avoir une dictée de 400 pages sans une seule faute d'orthographe, de français, de répétition, pas de répétition, qui se justifie pas, de conjugaison et tout. Et oui, un professionnel, c'est ça. Il doit être théoriquement capable de faire un travail parfait. Eh bien, c'est pas permis à tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail derrière pour y arriver.
Et pour être écrivain, les deux qualités primordiales sont lesquelles ?
La volonté. Donc, cette volonté, ce qui donne la puissance de travail. Je le veux, donc je vais le faire. Et la deuxième chose, c'est la rigueur. Je ne suis pas naturellement un garçon rigoureux. Vous verriez mon bureau ou ma chambre. Vous savez, des fois, on dit aux enfants, range tes jouets. Hein, ben moi, j'en mets partout. Alors, alors, faut voir mon bureau au début de semaine. Il est nickel. Quand on arrive jeudi, il y en a partout. Et puis, le vendredi, je dis, bon, si je laisse passer encore 2 jours comme ça, je vais plus m'y retrouver. Alors, je me prends en charge et je range ma chambre, mon bureau. Et le lundi, c'est nickel, je peux recommencer.
Donc, la lucidité aussi.
Alors, la lucidité, c'est un terme qui signifie être conscient. C'est une autre qualité, mais ça, pour trouver ça... Alors, peut-être, oui, c'est vrai, pour tous. La lucidité, c'est être conscient, par exemple, de ce dont on a besoin pour réussir ce qu'on veut réussir. Par exemple, quelqu'un voudrait devenir cuisinier ou plombier. Il faut qu'il cherche à savoir quelles sont les filières. Comment on devient un super cuisinier? Comment on devient un super plombier? C'est quoi un super plombier? Donc, il faut trouver les bonnes formations, les bonnes écoles, les bonnes filières. Et puis, il faut savoir quelles sont les bonnes qualités qu'il faut posséder. Moi, je sais que je serais totalement incapable de devenir un bon plombier. Moi, je risque de faire exploser la maison, c'est sûr. Donc, je n'ai pas choisi la plomberie pour ne pas risquer de faire exploser les maisons ou de provoquer des fuites invraisemblables. Non, donc je me suis rabattu sur un métier qui était plus facile pour moi, qui était le métier d'écrivain.
Donc presque tout le monde, si tout le monde possédait ces qualités, tout le monde pourrait être écrivain, selon vous ?
Alors, tout le monde peut devenir écrivain, mais pas n'importe qui. C'est-à-dire que, oui, tout le monde peut devenir écrivain, parce qu'après tout, moi, si je le suis devenu, parce que je n'étais pas spécialement un bon élève, ni voué au métier de l'écriture, mais pas n'importe qui, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très doués en français, ils sont bien meilleurs que moi aujourd'hui en orthographe. Pourtant, quand on lit leurs livres, enfin pas leurs livres, mais leurs manuscrits avant qu'ils soient publiés, puisque je, en tant que directeur de collection pour une maison d'édition, je lis des manuscrits de débutants ou de pas débutants d'ailleurs, hein, mais de gens qui me proposent, et je me rends compte que certains pensent être écrivains, mais ils ne le sont pas ou pas encore. C'est difficile à expliquer, mais ils n'ont pas encore vraiment compris ce que c'était qu'un écrivain, quelqu'un qui raconte une histoire. Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui, mais tout le monde peut le devenir.
D'accord, merci. Une question.
Vos livres, vous êtes un écrivain assez renommé en France. Vos livres sont souvent étudiés en école. Par exemple, nous-mêmes, ici présents, avons étudié quelques-uns de vos livres, mais ceux-là sont-ils vendus à l'étranger?
Alors, c'est sympa quand on apprend qu'un livre est vendu à l'étranger. Assez peu, en fait. Assez peu, parce que, bon, oui, c'est vrai qu'en France, je suis plutôt connu, mais ça ne suffit pas. Alors, j'ai quelques livres qui sont vendus en Europe, principalement. Là j'ai un livre qui j'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle L'enfer au collège. Il est traduit en allemand, il part en Allemagne, donc c'est pas mal, c'est sympa. En coréen, les coréens achètent beaucoup des coréens du sud, mais sinon c'est essentiellement les européens, sauf les anglais. Les anglais et les américains n'achètent pas de français, n'achètent pas de littérature étrangère, ils se font eux traduire, mais ils n'achètent pas de traduction. C'est dommage.
De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire?
Alors, l'inspiration, tout m'intéresse. Vous me verriez le mercredi. Alors, j'ai deux, trois qualités. j'ai parlé de la rigueur, j'ai parlé du travail. J'en ai une troisième. Je peux en parler quand même,
hein? Oui.
Et ma troisième qualité, c'est la curiosité. Je suis quelqu'un de très très curieux. Ce qui fait que, comme je suis curieux, tout m'intéresse. Donc, je remplis ma caverne d'Ali Baba dans ma tête de bonnes idées, de bonnes connaissances. Par exemple, vous me verriez le mercredi après-midi, je suis devant ma télé, je vais regarder le dessin animé. Quand le dessin est terminé, je vais zapper sur une émission sur les éventails chinois, sur la 5. Ça ne m'intéresse pas, les éventails chinois. Mais je vais m'y intéresser parce que, on ne sait jamais, je peux en avoir besoin un jour. Etc. Quand l'émission sur les éventails chinois est terminée, je vais éteindre la télé, et puis je vais me mettre dans mon canapé, puis je vais lire ma revue Dora l'exploratrice, vous savez, pour les 3-5 ans. Et puis après, je vais prendre mon manuel de physique nucléaire ou de chimie des étoiles, les rayons cosmiques, les rayons gamma, un truc bien prise de tête, comme ça, mais qui va m'apprendre plein de choses. Tout m'intéresse.
Mais souvent, on dit que la curiosité est un vilain défaut.
C'est un vilain défaut quand on s'intéresse, par exemple, à la vie de son voisin. Qu'on est indiscret. Mais à la limite, ce n'est pas la curiosité qui a un défaut, c'est l'indiscrétion. Vous voyez l'importance du vocabulaire. Moi, j'ai appris à bien distinguer les choses. Je vous invite à être les jeunes gens les plus curieux du monde. Intéressez-vous à tout, mais ne soyez jamais indiscret. Ne regardez pas par l'œilleton pour voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Ça, l'indiscrétion, ce n'est pas bien. Mais la curiosité, ça, c'est très bien.
Il paraît que Arthur Tenor n'est pas votre vrai nom.
Ah oui.
Alors voilà, pourquoi Arthur Tenor et non pas votre
Alors c'est vrai que c'est pas fréquent dans le monde de l'édition. Souvent on garde son nom, on n'a pas besoin de changer. On voit plutôt ça, voilà, Monsieur Stromae,
Monsieur Black M,
voilà, Madame Gaga, Lady Gaga. Hein. Est-ce qu'elle est née Gaga? Non, hein. Elle est devenue Gaga quand elle s'est mise à chanter. Alors moi, est-ce que je suis devenu un ténor? Par la naissance, hein, puisque je m'appelle Christian, enfin peu importe mon nom, mon vrai nom. En fait, c'est quand j'ai rencontré mon premier éditeur. Il m'a demandé, pour mon premier livre, voilà, est-ce que vous souhaitez signer vos livres de votre patronyme de naissance, Christian Escafre, ça c'est mon nom de naissance. Alors, je renie pas mes ancêtres visigoths, hein, mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est vrai, au fond, pourquoi pas signer mes livres en un nom d'artiste. Ça doit faire bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et puis, je me suis dit, lequel, comment, et puis j'ai pris le nom d'un de mes héros. C'était encore plus simple, puisque j'ai écrit plein de... Alors, Arthur Tenor, ça sonnait bien à l'oreille, et c'est le nom d'un héros, d'un roman qui s'appelle Passeport pour l'enfer, qui a été publié d'ailleurs chez Grasset, et qui est encore disponible, qui est un roman pour adolescents. Je vous invite à le découvrir. Le héros s'appelle Arthur Tenor, et le livre est signé Arthur Tenor.
D'accord, merci.
Tout d'abord, une dernière question. Être écrivain, est-ce un métier ou une passion?
Les deux, mon capitaine. C'est un métier de passion, mais c'est avant tout un métier parce que il faut bien comprendre que nous sommes des professionnels. Ça veut dire que nous sommes rémunérés, payés pour notre travail, que nous avons le droit à une sécurité sociale. C'est-à-dire que si je suis malade, j'ai des indemnités journalières, j'ai le droit à une retraite, figurez-vous. Mais oui, un jour, je prendrai ma retraite. Alors peut-être à 119 ans. Bah oui, un être humain vivant jusqu'à 120 ans. Allez, peut-être avant, on verra. Mais ça veut dire que c'est un vrai métier. Donc on est rémunéré, on a des charges sociales. On est comme n'importe quel salarié.
Depuis quand ?
Ah oui, alors c'est vrai que c'est assez récent. La caisse de retraite obligatoire des écrivains, je vous le mets en mille, c'est 2004. Ça veut dire qu'on a le droit de partir en retraite que depuis 2004. Le métier d'écrivain n'est reconnu que depuis cette date-là. Et la GSA, c'est-à-dire la caisse de sécurité sociale des écrivains, n'est pas si... C'est les années 90, le début des années 90, je crois 92, 1992. Ça veut dire qu'avant, on n'était pas écrivain. Vous faites quoi dans la vie? Bah, je suis écrivain. Oui, mais enfin, à part ça, c'est quoi votre métier? Bah, aujourd'hui, non, ça ne se passe pas comme ça.
J'ai une question. Faites-vous des déplacements pour trouver l'inspiration ou pour écrire un livre qui parle d'un lieu précis?
Alors, je fais pas des déplacements pour. Alors, c'est vrai qu'il y a des écrivains qui vont vraiment sur les lieux. Alors, par exemple, j'ai écrit un roman qui se passe à Verdun pendant la guerre de 14-18. Eh bien, figurez-vous que je suis allé à Verdun après avoir écrit le livre.
Mémoire vif, c'est ça, non?
Non, Mémoire à vif se passe dans la Marne, c'est la bataille de la Marne, alors que Il s'appelait le soldat inconnu se passe en grande partie pendant la bataille de Verdun, c'est la vie du gars qu'on a enterré sous l'Arc de Triomphe. Et je suis allé à Verdun après, alors ça fait très bizarre parce que, en fait, je visite des lieux que j'ai décrits dans mon roman. Alors, ça, c'est une capacité, une qualité ou une faculté de l'écrivain, c'est de décrire des lieux qu'il n'a jamais décrits. C'est de vivre des événements qu'il n'a jamais vécu. Moi, je n'ai pas fait la guerre de 14. Et pourtant, j'en parle comme si je l'avais fait. Etc., etc. Donc, je peux me mettre à la place d'une fille aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est difficile, hein. Je suis un garçon, donc la psychologie féminine, peut-être, est différente de la psychologie masculine. Et bien, pourtant, j'ai écrit des romans dont le héros est une fille. Etc., etc. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un inconvénient, à condition d'être très rigoureux, tiens, une fois encore. C'est-à-dire que quand on donne une information, on est sûr de cette information.
Dernière question.
Oui.
Comptez-vous écrire un livre sur les faits qui se sont passés à Paris?
Alors, j'oserais dire que c'est déjà fait. Je te remercie de me faire évoquer ça parce que je sors en janvier un livre qui s'appelle Je suis Charles Liberté. Et je l'ai écrit après les événements de Charlie Hebdo, de Vincennes, et qui, voilà, faisant, là, je fais référence à une expérience personnelle de lycéen, puisque j'ai, avec quelques camarades, on avait créé un journal lycéen un peu satirique, assez caustique, assez, voilà, un peu revendicatif, et sur lequel on n'a jamais eu, mais jamais, jamais aucun, ni menace, ni interdiction, ni menace d'interdiction, alors qu'on n'était pas toujours tendre. Je suis Charles Liberté, c'est en janvier.
D'accord. Bon,
Merci.
alors, merci pour votre présence. Tout de même, nous allons rappeler que vous serez ce week-end au Festival de Seine, au Salon du Livre, au Mai-sur-Seine, dans la salle du Mât. Il y aura beaucoup d'auteurs, entre autres Arthur Ténor, des dédicaces, des conférences et peut-être aussi une petite synthèse sur le nouveau livre de Arthur Ténor qui sort demain, Graines de résistance.
Exactement. Merci à vous.
Merci
Merci. À vous, Monsieur Arthur Léon, d'être venu et de nous avoir accordé cette petite interview. Et à la prochaine pour une nouvelle émission.
Tout
Au revoir.
Pour moi.
Merci, c'était Radio 94.5 FM. À plus tard.
Heaven holds a place for those.